Père-Michel Martin-Prével, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, je crois qu'aujourd'hui, vous nous proposez un tour en mer.
Oui, tout à fait, exactement. Parce que c'est un petit peu ce que l'on peut dire des familles aujourd'hui, parce qu'il ne faudrait pas garder cette image un peu d'épinal sur une famille où tout va bien, papa, maman, tout va bien. Mais parce que on constate, hein, vous êtes bien d'accord avec moi, et dans ces périodes de confinement, ce n'est pas non plus aussi très facile pour beaucoup de familles, que la famille, c'est une affaire de rester dans une galère ou de passer à la croisière. Et donc, le bateau de notre famille, il est un peu secoué, mais il le sera assez souvent. Parce qu'on n'est pas dans un port, avec comme ça, gentiment, à l'abri de toutes les coups durs, mais le bateau doit prendre le large. Et on peut rester aussi dans une petite crique, comme ça, bien tranquillement, à l'abri des regards. Pourtant, notre famille, c'est plutôt un porte-avions où on va circuler et pour les combats de ce monde. Est-ce que ça ne peut pas devenir aussi un grand paquebot de luxe? Sans doute. Mais en fait, ça veut dire que la famille, ça reste une école de vie exigeante. Et ça ne peut pas être un cocon douillé. D'ailleurs, on s'en rend compte dans cette période de confinement qu'il faut donner des efforts. Et on attend d'elle, de la famille, comme une espèce de produit fini où tout va bien d'entrée de jeu, alors que c'est toujours une construction. Alors, on va passer de l'image du bateau à l'image de la maison. C'est une construction en permanence, quoi. Et la maison n'est jamais finie. Ça veut dire que notre famille n'existe pas pour elle-même. Elle existe aussi pour les autres. Elle est aussi au service des membres de cette famille. Voilà pourquoi, dans une famille, il faut être prêt à beaucoup se donner. Et on découvre en particulier dans notre vie de famille, telle qu'elle est, dans la réalité de ce qu'elle vit, qui a certainement plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors, moi, je pense que la famille, ça reste toujours l'invention la plus extraordinaire qui soit pour vivre le bonheur et pour le diffuser autour de soi. Et ça, c'est être justement pas toujours en galère, mais être quelquefois en croisière. Mais on est un peu les deux, voilà. Ça veut dire que le bonheur, on le trouve que comme une conséquence de l'investissement qu'on y met. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On peut dire d'une façon, vous voyez, plus générale, que tôt ou tard, au milieu de cette tempête morale, elle est très importante aujourd'hui, et qu'on voit bien statistiquement que tous les couples ne tardent pas à découvrir une simple vérité, c'est que toutes les familles sont imparfaites. Et la famille dont vous faites partie, celle que vous avez fondée ou celle où vous avez vécu, la famille dont vous faites partie, elle est imparfaite, toujours. Et voyez, le perfectionnisme, c'est toujours un peu démoniaque, c'est une illusion un peu rassurante. Et on désire cette famille parfaite, sans doute. Mais il est beaucoup plus important d'être dans notre réalité. Et on trouve surtout que ce n'est pas notre famille qui est un problème. Peut-être que ça se fait plus difficilement, ça. Ce n'est pas notre famille qui est un problème, mais c'est nous-mêmes. Voilà. Et une fois qu'on a découvert ça, qu'est-ce qu'on doit faire ? Ben, il est possible de faire quelque chose. Ça veut dire que tous les efforts portent du fruit, mais à long terme. Et si notre famille ne peut pas vivre dans la perfection absolue, comme on l'espère, eh bien cela vaut quand même la peine de vivre dans une famille. Voilà. Et parce que tous les êtres humains sont les enfants du Père. Et en tant que chrétiens, nous considérons bien que on n'a pas tant à insister auprès des personnes de notre entourage pour qu'elles entrent tous dans la famille du Père. Voyez, on dit « Ah, si on était tous chrétiens, ce serait mieux ». Mais plutôt, on a aussi à leur annoncer qu'on est tous dans cette famille de Dieu. Alors, on reste bien entendu des pécheurs et on est aussi un peu blessés, ça, on l'est tous un peu. Voilà, c'est comme ça. Et malgré toutes ces imperfections, eh bien, notre famille, elle appartient à Dieu. Voilà comme chrétien, on n'est pas en train d'essayer on n'est pas décalé, on n'essaye pas de devenir une famille sainte, on commence déjà à l'être, dès que l'on se tourne vers notre Dieu, qui connaît nos imperfections. Et tout ça, ce n'est pas hasard, on se trouve dans les mains de Dieu, et ça, quelle que soit la situation de notre famille. La famille est bien dans tous les états, c'est vrai, mais elle porte pour ainsi dire en elle-même le nom de Dieu. Parce que dès qu'il y a un peu d'amour, même maladroit, il y a quand même cette présence de Dieu. Voilà. Ça veut dire que notre famille, elle porte la marque de Dieu quand nous sommes des baptisés particulièrement. Ça veut dire que aussi que quand la vaisselle s'entasse dans l'évier, quand les enfants se disputent et qu'il n'y a pas moyen de les séparer, ou quand c'est plein de factures à payer, on ne sait pas comment on va faire, quand les relations humaines semblent un peu fades, quand nos adolescents nous effraient un peu parce qu'on ne sait pas où ils vont aller, quand tout ça se produit, ben, c'est facile de ne regarder que les difficultés et les problèmes. Alors là, c'est la vie de galère, oui. Cependant, on reste la famille de Dieu et on est en chemin vers le royaume. Et donc, on est dans une croisière vers le ciel, voilà. Et Jésus est dans la barque, on le voit dans l'évangile, ça. Jésus, il est dans la barque, même en pleine tempête. Et même s'il dort sur le coussin, voilà. Donc, vous voyez que Dieu n'entend pas simplement aussi que les cris, les disputes ou les larmes, mais il entend aussi les rires, les petits mots d'encouragement, les gestes affectueux, tous les petits sourires. Voilà, tout ça, c'est quelque chose qui fait de nous une famille de Dieu. Alors, c'est vrai qu'il y a cette grande attente sur les familles aujourd'hui. Et vous voyez, comme au début du XXe siècle, André Gide avait pu dire « Famille, je vous hais », parce que sa famille, à lui, est particulièrement horrible. Mais Jean II, à la fin du XXe siècle, nous a dit que la famille est la route de l'humanité. Ça veut dire que la famille reste belle, non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est donnée à le devenir. C'est ça, se tourner vers la sainteté. Et ça, c'est avec nos accidents, avec nos plaies, avec tout ce qui peut se passer en nous. Je remarque que la famille, c'est une affaire de relations. Bien. Et je remarque qu'il y a un grand décalage entre ce que nous investissons pour notre corps, du côté de la santé, de l'alimentation. Vous voyez comme on cherche beaucoup la nourriture bio. On se préoccupe beaucoup de nos vêtements. Voilà, tout ça, ça nous occupe beaucoup sur nos corps. Et toutes les maladies de nos relations, toutes ces fermetures, ces non-dits, tous ces mensonges, c'est même quelquefois de la médisance dans les familles. Il y a les secrets qui sont... Ah, il y a les secrets, c'est terrible. Il y a des tabous, hein, tout ça. Eh bien, tout ça, ça veut dire qu'il faut travailler sur ces maladies de la relation et pas d'abord sur les maladies du corps. Ce n'est pas le tout. Et on est dans une période très hygiéniste. Vous voyez, on s'occupe beaucoup de protection sanitaire avec des masques et des distances. Mais le dialogue dans la famille, là, il n'y a pas de confinement, au contraire. Et ce dialogue, peut-être qu'il est en panne, qu'il y a trop de distance entre les cœurs. Peut-être que nos sourires sont dissimulés derrière des masques. Oui. Mais il reste le sourire des yeux. Alors voilà comment il y a toujours à rechercher cette qualité de la vie, parce que tout le monde en parle, et c'est dans la famille que l'on peut le vivre peut-être le plus facilement. Peut-être que, vous voyez, c'est peut-être vos propres enfants qui vivent comme ça aujourd'hui. Peut-être que vous vivez vous-même comme ça. De courir après tant d'activités pour les enfants, le piano, la chorale, les enfants de chœur, le judo, etc. Alors on le fait beaucoup moins aujourd'hui, tant mieux. Parce qu'il faut retrouver cette façon d'être les uns pour les autres. Alors c'est comme ça qu'on vit des jeux en famille, qu'on va se promener dans la forêt d'à côté, qu'on fait un goûter en famille, un bricolage avec papa, on prend le temps de rire, de chanter ensemble. Voilà, ça c'est la croisière. Et bien sûr qu'on voit aussi que peut-être qu'il y a des épreuves, c'est peut-être la galère d'une façon plus évidente quand c'est tous les jours, parce que la famille est déplacée, parce qu'elle est séparée, parce qu'elle est aujourd'hui éclatée, il y a les familles infertiles, on n'a pas d'enfants, voilà. Et pourtant les familles, elles continuent à se former, à se fonder, et je crois qu'elles guérissent aussi les familles, elles ne font pas qu'être blessées. Vous voyez, dans une forêt, il y a beaucoup d'arbres, mais il y a des arbres tordus, ils sont un peu divers, il y a des petits, il y a des grands. cette forêt-là, elle continue à vivre, même si de temps en temps, bien sûr qu'il y a un arbre qui meurt parce qu'il y en a un autre qui prend sa place. Et vous voyez, passons du rêve à la réalité. C'est ce que nous dit l'Évangile quand l'Évangile nous parle de l'ivraie et du bon grain. Dans cette parabole, vous savez, Jésus nous dit qu'il faut surtout laisser l'ivraie. Parce que si on veut enlever l'ivraie, on va aussi enlever le bon grain. Et donc, il faut savoir, non pas fermer les yeux, mais tolérer qu'il y ait de l'ivraie. Et curieusement, le bon Dieu d'un mal peut faire un bien. On peut dire que l'ivraie peut même devenir du bon grain. Pourquoi pas ? L'ivraie, c'est tout ce qui est de mauvais en moi, attention. Ce n'est pas d'abord ce que je vois chez l'autre qui ne me plaît pas. L'ivraie, c'est tout simplement nos réalités de pécheurs. Et le saint, c'est celui qui sait qu'il est pécheur, justement. Ce n'est pas quelqu'un qui se croit arrivé à la perfection. Je répète que le perfectionnisme, c'est satanique. Il y a dans nos familles tout ce qu'il faut pour vivre de belles choses. Il y a un potentiel de vie. C'est aussi avec nos enfants un potentiel d'éducation, car nous avons cette grâce de transmettre quelque chose à nos enfants, même en acceptant qu'on n'arrive pas à de la perfection, justement. La famille, c'est ce potentiel de socialisation, d'humanisation, où on fabrique des petits hommes. Et ça, c'est une aventure extraordinaire. Et vous savez qu'aujourd'hui, la famille, ça reste le dernier pôle de confiance, de ressourcement aussi. Quand ça ne va pas bien, on pense très souvent à sa famille. Parce qu'il y a là une possibilité d'équilibre affectif, où justement on est capable, non pas parce qu'on est tous gentils, mais on est capable de passer des bons moments ensemble. C'est cette famille que le Concile Vatican II décrit comme une communauté profonde de vie et d'amour. Voilà où on trouve deux valeurs, on ne trouve peut-être ces deux valeurs que dans la famille, c'est l'amour et la vie. La vie, celle que l'on fait vivre au milieu de nous, c'est la vie que l'on donne en ayant des enfants. Et puis, cette autre valeur qui s'appelle l'amour, auquel on croit énormément aujourd'hui. Mais en sachant que l'amour, c'est quelque chose de fragile et qu'on s'en donne plus ou moins bien. Voilà. C'est plébiscite numéro un, l'amour, c'est vrai. Et pourtant, si on en a trop d'espérance, finalement, on est aussi dans de grandes déceptions. Alors prenons l'amour comme un beau chemin d'espérance, oui, mais l'amour, ça se vit aussi dans les épreuves. Et quelquefois même, les épreuves sont là pour fortifier l'amour. Ça veut bien dire que ce n'est pas tout à fait antinomique. Alors, voilà, la galère, oui, la galère, c'est souvent pour nos familles aujourd'hui. Les épreuves familiales, elles ne manquent pas, certes. Et pourquoi y a-t-il tant d'épreuves dans les familles aujourd'hui ? Eh bien, je crois que c'est parce qu'elles sont tout simplement plus vulnérables. Il y a la précarité de l'engagement dans le mariage, souvent, qui peuvent expliquer ça. Vous voyez, comme nos enfants n'ont pas toujours fait des engagements très forts dans le mariage, alors qu'ils le désirent, attention. Et que la fidélité est particulièrement attaquée, parce que notre monde a banalisé l'adultère. Donc il faut lutter contre ça. Il y a aussi de l'immaturité, aussi chez certains. Tout ça, ça rend la famille vulnérable. Elle est aussi d'une façon naturelle, parce que, vous savez, l'homme est une espèce animale qui est la plus fragile dans le monde. Voilà. Et puis, autre chose qui nous rend vulnérable, qui nous rend fragile, c'est le péché. Et le péché nous rend même faible. C'est ce que constate saint Paul. Je ne fais pas le bien que je voudrais faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. Oui, on a toujours cette réalité. Alors les familles sont donc vulnérables, acceptons-le, mais aussi elles sont plus sollicitées aujourd'hui. Alors là, il faut peut-être mettre un peu la pédale douce parce que, vous voyez, c'est tout ce qu'on appelle les stresseurs de la vie moderne. Alors on est dans les horaires, les trajets, les rythmes, les performances, voilà, tout ça. Et ça, ça maintient une surchauffe impressionnante qui font beaucoup de mal dans les familles. Voilà, des familles plus vulnérables et plus sollicitées en même temps. Voilà, il ne faut pas s'étonner. Maintenant, les épreuves, bien sûr que les épreuves, elles sont normales, surtout quand elles viennent de situations que l'on subit. Un deuil, un chômage, la stérilité, l'handicap, hein, on a des enfants handicapés, des maladies. Il y a le vieillissement de nos parents qu'il faut porter. Voilà, tout ça, ce sont des situations que l'on subit. Reste, bien sûr, à ne pas les provoquer. Et c'est ce qui est peut-être grave dans notre société, c'est qu'on provoque des situations nouvelles qui font du mal aux familles. Je pense à l'avortement, au vagabondage sexuel, à l'addiction chez les ados, qui est plus ou moins favorisée. Et puis, bien sûr, il y a des séparations, les divorces, qui sont, si, il faut le reconnaître, favorisés. Voilà, tout ça, ce sont des situations qui grèvent encore une fois la vie familiale. Mais les épreuves ne viennent pas que de situations subies, des situations extérieures, c'est aussi celles qui viennent de nous. Donc elles viennent aussi des péchés des hommes, tout simplement. Et bien sûr que là, il faut s'en remettre à soi-même, à nos péchés, notre égoïsme, notre individualisme, ouais, qui est le grand péché dans une famille, l'individualisme. Il peut y avoir des déficits d'éducation quand on ne donne pas assez aux enfants. Il y a la rupture de la transmission, eh oui, avec des héritages mal gérés. Il y a la différence de foi aussi dans une famille qui crée aussi souvent des tensions. Voilà, l'épreuve en général, nous en avons tous. On est autant éprouvés que les non-chrétiens. Alors ne disons surtout pas que c'est Dieu qui nous éprouve. Saint Jacques, dans sa lettre, dit que Dieu n'éprouve personne, mais chacun est éprouvé par sa propre convoitise qui l'attire et le trompe. Voilà pourquoi il faut toujours en revenir souvent à soi-même. Et c'est pas Dieu qui nous éprouve, c'est plutôt Dieu qui est éprouvé par notre épreuve. Et donc, il est de notre côté dans nos épreuves. Voilà, alors quoi faire, chers amis? Eh bien, je répète qu'il faut accepter la fragilité des familles, comme la fragilité de ces petits bateaux, voyez, sur des mers déchaînées. Jésus ne proposait pas un idéal, il proposait un idéal exigeant, Jésus. Mais en même temps, il n'a jamais renoncé à une proximité compatissante. Donc un idéal qu'il faut garder, mais en même temps se mettre dans la compassion. Parce que nous sommes des familles incomplètes, c'est-à-dire encore à en devenir. Et puis nous sommes des familles blessées, ça veut dire à guérir. Voilà. Et pour ça, l'Église n'est pas un tribunal, mais elle est bien un hôpital de campagne, nous dit le pape François. Ça veut dire, je crois, surtout qu'il faut faire une place au temps. Pourquoi, quand je parlais de ces stresseurs, vous voyez, qui sont dans les familles, pourquoi ne pas lâcher? Et le confinement, c'est presque imposé. Ça permet de lâcher par rapport au temps. Il faut élaguer, il faut diminuer la voilure. Voilà. Il faut savoir faire des bordées pour continuer à avancer. Comment, finalement, la croissance aussi des enfants, c'est une croissance lente. Et on n'est pas dans un rythme qui est favorable quand on est tout le temps les yeux sur la montre. Voyez, regardez ces bébés qui sont bousculés, qu'il faut lever en vitesse, le biberon, la nounou, etc. Cette façon d'avoir des vies fragmentées, où on arrive tout juste à parler et où il n'y a plus de gratuité. Faire de la place au temps, ça veut dire surtout aussi se libérer d'un esclavage des écrans. Les écrans, il faut savoir les éteindre pour garder des temps spécifiques pour nous, pour notre relation dans notre couple, relation avec nos enfants. Les enfants sont nourris de la relation que l'on a avec eux. C'est ça la première nourriture. Et l'écran, les écrans, souvent ça fait écran justement entre les parents et les enfants. Retrouvons bien dans ce confinement ce besoin de gratuité, de relation, voilà. Nous avons des limites et quand on cherche à les dépasser, alors on casse quelque chose. Combien il faut être dans une certaine créativité, peut-être une disponibilité pour apprendre à s'aimer, voilà. Ça coûte, il faut ramer un peu ensemble, mais on prend du temps pour cela. Des moyens qui sont plus spirituels, c'est le pardon. Est-ce que l'on vit du pardon dans la famille? On peut même s'installer tous les mois à prendre un petit temps de pardon, tout simplement, entre les époux, entre les parents et les enfants, et aussi entre les enfants. Parce que pardonner, c'est s'aimer. Qu'est-ce qu'on grandit comme ça en se pardonnant régulièrement? Il y a cette notion de temps aussi, vous savez, qui intervient beaucoup dans la patience. Voilà. Le pape François dit dans Amoris Laetitia, c'est le numéro 224, « L'amour a besoin de temps disponible et gratuit et qui fait passer d'autres choses au second plan. » Vous voyez bien qu'il faut du temps pour dialoguer, pour s'embrasser sans hâte, pour partager des projets, pour s'écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour renforcer la relation. Ça, c'est le pape qui parle. Et il continue. Parfois, le problème, c'est le rythme frénétique de la société ou les horaires qu'imposent les engagements du travail. Et peut-être pour ça, le télétravail, c'est moi qui le dis, peut ajouter quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, le pape dit aussi, d'autres fois, le problème, c'est que le temps passé ensemble n'est pas de qualité. Nous partageons uniquement un espace physique, mais sans nous prêter attention mutuellement. Ah, voilà cette qualité qu'il faut absolument retrouver, parce que ça permet de porter ensemble des épreuves. Voyez encore une fois comment la vie de famille, c'est du réel, c'est du concret. Voilà. Ça peut être de la souffrance, mais une souffrance qui arrive à être offerte. Et là, on est dans le mystère pascal. On peut connaître de ces petites résurrections parce que aussi il y a des souffrances qui sont offertes. Il y a des fruits, vous voyez, à la fidélité, à l'obéissance. Les moyens, finalement, pour être heureux, oui, je dis bien heureux en famille, ça ne veut pas dire sans épreuve, attention, mais être heureux en famille, c'est tout simplement les moyens de l'Évangile. C'est se pardonner, c'est vivre certaines vertus. L'humilité, voilà, ne pas considérer que l'autre est inférieur à moi. Il y a toute la compassion. Voilà, et justement parce qu'on est une famille éprouvée, il faut d'autant plus de compassion entre nous. Mettons le Seigneur à la première place. Mais oui, c'est comme ça que quand il prend sa place au milieu de nous, alors on a trouvé un but. Et à nous ensuite de trouver les moyens. Il y a pour nous, dans l'amour familial, ou dans l'amour conjugal, il y a une obligation de moyens, pas de résultats. Le résultat, on le confie à Dieu, point. Dans l'économie, vous voyez, dans le travail, c'est l'inverse. Il faut qu'il y ait une obligation de but et il faut qu'on y arrive par n'importe quel moyen. Ben, ce n'est pas comme ça dans la vie familiale. Et invitons le Seigneur dans la prière familiale. Oui. La prière familiale, c'est parce que d'abord, les époux prient ensemble. Et c'est ça qui donne tout le sens de prier ensuite avec ses enfants et non pas pour ses enfants. Prier avec ses enfants. Voilà, chers amis, j'aimerais conclure en soulignant que peut-être qu'aujourd'hui, justement parce que la famille ne va pas très bien, eh bien, curieusement, on a tendance à la sacraliser. Et l'Évangile nous dit des choses là-dessus qui sont très nettes. On ne peut pas sacraliser la famille parce que la famille, ça n'est qu'un moyen. Ce n'est pas une fin en soi. Vous voyez comment dans l'Évangile, on entend Jésus qui nous dit « Nul n'aura laissé femme, frère, parents ou enfants à cause du royaume qui ne reçoivent bien davantage en ce temps-ci et dans le monde à venir. » Vous voyez que la famille, c'est un trépied pour construire quelque chose qui s'appelle le royaume. Parce qu'il y a plus que la famille. C'est aussi rassurant quand notre famille est un peu, disons, très mal en point ou assez détruite parce qu'il n'y a pas que la famille pour orienter toute ma vie. Parce qu'elle n'est pas, encore une fois, un but, elle n'est qu'un moyen. C'est une réalité avant-dernière. Et la famille, ne la sacralisons pas, parce qu'elle a une valeur inférieure à la personne. On ne se sacrifie pas pour sa famille, c'est pas normal. On peut se sacrifier pour son conjoint, pour ses enfants, oui, ça c'est normal. Et c'est comme ça que l'on se sanctifie. Et particulièrement dans les épreuves, encore une fois. Mais la famille, ce n'est qu'un moyen. Et je vais même plus loin, et là, vous voyez, on est dans la suite, justement, du mystère pascal. La famille, d'un certain côté, elle doit mourir. Ça veut dire qu'elle est dans une logique de semence et de vie, c'est-à-dire de grains qu'on doit semer. Et parce qu'il doit semer, il est semé, mais il est semé pour mourir. Et ensuite, il porte du fruit. Et le fruit, ce sont les personnes. En particulier, une famille, elle transmet, elle va se renouveler par ses propres enfants qui eux-mêmes quittent le foyer pour pouvoir eux-mêmes faire d'autres familles. Et donc, notre propre famille, quand on est marié, quand on est des parents, puis un jour on devient des grands-parents, notre propre famille, elle va se détruire et elle a donné d'autres familles. C'est ça que ça veut dire. Et on ne cherche pas à sacraliser la famille, à la faire vivre, elle n'est pas éternelle. Notre amour conjugal, il peut être très fort, et il est fort, aussi fort que l'amour de Dieu, mais il est fort dans ce qu'il va donner, dans ce qu'il va produire. Il ne fabrique pas une entreprise familiale à but éternel. Voilà. Donc, gardez, je vais vous citer le pape François. Dans Amoris Laetitia, vous savez, on est dans l'amour, on est dans l'année de la famille selon Amoris Laetitia. Amoris Laetitia, ça veut dire la joie de l'amour. Voilà le fondement de notre famille, dans tous les cas de figure. Alors le pape François, il dit ceci, dans Amoris Laetitia numéro 5, « Gardez un amour fort, nourri de valeur, de générosité, d'engagement, de fidélité, et de patience. C'est être ainsi un signe de miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la joie. Vous voyez, la croisière, à certains moments, c'est la galère. Mais nous sommes dans une croisière, c'est-à-dire pour du temps long, pour de la patience, pour construire une aventure. Voilà, vous qui êtes peut-être des personnes plus âgées et qui vous souciez pour vos propres enfants, les familles de vos propres enfants, vous êtes quelquefois très souffrant de ce que vous ne voyez pas ces familles réaliser de belles valeurs auxquelles vous avez cru vous-même. Et bien, je crois que votre rôle, c'est d'abord ceci, d'être vous-même un exemple de ce que peut être la générosité, l'amour, la douceur, la prière, la compassion, le pardon. Voilà, être vous-même, c'est comme ça qu'on est missionnaire, être vous-même à vivre l'évangile avec tout ce que ça veut dire. Et ça, vous allez influencer comme ça, influencer vos enfants et vos petits-enfants. Alors ne craignez pas cela, vous avez une belle mission, quel que soit votre âge, avec la famille qui est la vôtre, avec celle qui vous entoure, vous avez une mission formidable parce que, c'est ce que dit Amoris Laetitia, la famille, c'est un lieu d'évangélisation aujourd'hui qui est très important. Voilà pourquoi le pape a bien lancé cette année de la famille Amoris Laetitia, parce qu'il y a un enjeu qui est très important. Alors saisissons cet enjeu, parce qu'il y a une belle aventure à vivre ainsi avec Jésus. Jésus qui est bien ressuscité au milieu de nous.
Père Michel, nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir. Il s'agit de Monique. Monique, c'est à vous.
Bonjour mon père, merci beaucoup pour votre prestation. Bonjour. Sur la famille qui m'a beaucoup intéressée et je me suis sentie concernée, comme tout un chacun certainement, mais en ce qui concerne ma famille, puisque chacun ne veut parler que de la sienne évidemment, moi j'ai grandi dans une famille aimante, j'ai 82 ans, donc évidemment l'éducation n'était pas celle d'aujourd'hui, et mes enfants ont été privés de leur père puisqu'il nous a laissés alors qu'ils étaient tout petits, donc moi j'ai élevé mes enfants avec l'aide de mes parents lorsque j'ai travaillé, et mes enfants sont partis ensuite à Paris. Leur situation les a conduits à Paris. Et ce qui fait qu'ils ont formé leur famille à Paris. Et mes petits-enfants là-bas aussi, dans la région parisienne, ils viennent chaque année aux vacances, à Noël. Mais il y n'y a plus, évidemment. Ils se sont mariés avec des personnes, surtout ma fille, elle s'est mariée avec un monsieur qui n'a pas grandi dans un foyer, un jeune homme qui n'avait pas grandi dans un foyer chrétien. Ce qui fait que nous sommes un petit peu, il y a ce lien qui était très uni entre nous s'est desserré. Elle m'appelle une fois par semaine, mais pas plus. Si je suis malade, elle ne veut absolument pas m'appeler plus d'une fois par semaine. Elle me dit non, c'est ainsi, moi je suis à Paris, alors que je sais qu'elle m'aime. Mais bon, mon fils est un peu différent. Mon fils, lui, il appelle. Mais, parce que sa femme est un petit peu différente aussi, puisqu'elle est, elle est croyante. Mais, le fait que vous ayez dit qu'il fallait que la famille se recompose finalement un petit peu ensuite, lorsque les enfants partaient, m'a éclairée. Et je me dis que c'est peut-être moi qui suis trop exigeante, parce que m'appeler déjà une fois par semaine,
oui,
c'est très bien.
C'est peut-être une bonne question, parce que vous savez, vos enfants ne vous appartiennent pas. Ils ne vous ont jamais appartenu, mais plus que jamais, ils ont leur liberté, leur indépendance, voilà. Ça, c'est un fait à accepter. Et on ne peut pas du tout imposer à nos enfants de nous appeler deux fois, trois fois par semaine, etc. C'est quelquefois douloureux parce qu'on veut que ce soit vraiment beaucoup plus naturel. Mais c'est tout simplement, je suis persuadé que vos enfants, ils sont eux-mêmes dans un tel système, vous voyez, qui est complètement... Ça, c'est vrai, ça prend une manie parce qu'ils ont des rythmes de fou. Et c'est là qu'ils vous ont sorti leur lumière. Mais de fait, ils sont complètement, comme on dit, le nez dans le guidon, vous voyez. Alors, il ne faut peut-être pas leur en vouloir complètement, mais il faut aussi accepter que, tout simplement, leurs préoccupations sont devenues un peu principales. Et vous, vous n'êtes pas tout à fait la préoccupation principale, oui. D'un certain côté, c'est relativement naturel, voilà. Que vos enfants s'occupent d'abord de leurs enfants à eux, c'est beaucoup plus important. Je ne dis pas qu'il faut abandonner les vieux parents, mais d'un certain côté, moi je suis moi-même grand-père, vous savez, forcément je crois qu'on abandonne l'idée qu'on est toujours à la remorque de nos enfants, et voilà, on ne peut pas exiger ça d'eux. Alors ça fait partie de notre souffrance qu'il faut savoir offrir au Seigneur, mais vous restez toujours disponible en toutes circonstances pour répondre à leurs demandes, à leurs appels, etc. Voilà, c'est une chose qui est à offrir. Votre prière est très importante, en tout cas, pour porter vos enfants dans de telles situations.
Mais alors, par contre, les petits-enfants, eux, c'est tout à fait merveilleux. Les grands-parents, pour les petits-enfants, c'est formidable. Mais ce sont les enfants qui ont leur vie. Et donc, je comprends maintenant, d'après ce que vous avez expliqué, que nous n'avons pas à attendre de nos enfants, même si nous sommes fatigués, même si nous avons des problèmes, nous devons les résoudre et laisser vivre leur vie de leur côté.
C'est vrai, tout à fait, parce que c'est premier, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien que d'autres, mais c'est premier, ça doit passer
voilà,
à la première
place. Voilà, c'est cela, j'ai compris.
Voilà,
oui. Je vous remercie beaucoup, mon père.
Offrez en tout cas cette souffrance, parce que...
J'offre, parce que ma fille était très proche de moi, très proche, et il y a une coupure, si vous voulez, parce que son mari, c'était franc-maçon, tout ça, donc moi, évidemment, c'était pas du tout la même éducation. Alors, évidemment, il y a eu cette petite coupure. Mais tout revient petit à petit, mais je comprends très très bien qu'il faut que ce soit la maman qui se mette au service de Dieu uniquement, et en le remerciant que ses enfants soient en bonne santé, ses petits-enfants aussi. C'est tout cela qui compte.
C'est déjà très bien si cette petite...
Et ma fille m'a dit qu'elle était allée à la messe dimanche, j'étais vraiment très contente.
Ah ben voilà, on a des joies.
Voilà, et là j'ai gagné, parce que mes prières sont efficaces.
Voilà.
Merci mon père, merci beaucoup, au revoir.
Merci beaucoup.
Merci. Nous avons un message d'Agnès qui écrit ceci. Bonjour père, vous nous donnez des ailes, merci, même si nous savons cela nous aide tellement, nous donne du courage, la foi nous rend forts et courageux. Merci père, soyez bénis. C'est signé Agnès.
Oui, soyez tous bénis vraiment dans ces beaux efforts que l'on fait.
Alors peut-être une dernière question, j'ai une amie qui est mère de 5 enfants, il y en a un qui n'est plus à la maison parce qu'il a 20 ans, et il y en a 4 autres qui sont scolarisés, Et du coup, avec la fermeture de l'école, elle se retrouve à faire l'école à la maison pour quatre niveaux différents: lycée, collège, école primaire et maternelle.
Oui.
Et donc, du coup, c'est vrai que c'est compliqué d'avoir à surveiller les devoirs et le travail scolaire de quatre niveaux différents.
Oui, alors c'est vrai que là aussi, on ne va pas se donner des exigences de perfection. Ce qui est certain, c'est que les parents, dans ces cas-là, je dirais, ils font le maximum, voilà, sans certainement pouvoir remplacer des enseignants, dont c'est quand même le métier. Et les parents sont là comme des palliatifs dans ce cas-là. Et le gouvernement a bien compris qu'il n'y a pas beaucoup de temps de scolarité parce qu'il y a les vacances, etc. Donc c'est un mauvais moment encore à passer. Mais c'est vrai qu'il faut garder une certaine tension sur les enfants pour pas que ce soit évidemment 4 semaines de vacances, quoi. Et donc, il faut qu'ils continuent à faire travailler un peu leur ménage, qu'ils continuent à travailler comme ils le peuvent. Et les parents sont là, c'est vrai, beaucoup plus, comme on dit, des répétiteurs que dans des enseignants. Donc, il ne faut pas qu'elles se mettent la barre trop haut. Voilà, il faut qu'elle enseigne dans sa famille un bon rythme de travail, chacun s'y met. Il faut qu'elle essaye surtout que les grands aident les petits. Ça, c'est très intéressant. Sinon, si la mère se sent la seule responsable de tout ce monde-là, ça fait trop. Et si elle peut engager les aînés à regarder les devoirs des plus petits, c'est très, très formateur. C'est ce qu'on appelle le monitorat. Quand des aînés aident les petits, ça leur fait du bien à eux aussi. Voilà. Et ça, c'est chouette. La 5 garçons, là, ou 4 en tout cas avec elle, eh ben, ça, c'est une petite classe. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Les grands aiment les petits. Je sais que c'était une devise, ça, du scoutisme, vous voyez. Et c'est très riche dans une famille de vivre cette dimension, que ce n'est pas les parents qui s'occupent de tous les enfants. Les enfants aussi se font du bien entre eux, tout simplement.
Alors
Voilà, c'est peut-être ce qu'il faut lui conseiller.
nous avons une auditrice qui souhaiterait intervenir et nous terminerons l'émission avec elle. Il s'agit d'Anne-Marie. Anne-Marie, c'est à vous.
Anne-Marie.
Oui, bonjour. Je me permets de vous appeler. J'étais en train de faire des courses, donc j'ai stationné et puis je vous ai écouté. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire parce que j'ai l'impression de comprendre tout ce que j'ai vécu depuis quelques années dans ce chagrin de la famille. Et je me suis dit, mais c'est vrai, on veut toujours que tout aille bien, que tout soit parfait, que nos enfants se fréquentent, on s'aperçoit qu'ils ne se fréquentent pas toujours. On voudrait être très près d'eux, puis on s'aperçoit qu'on n'est pas toujours près d'eux, puis qu'ils n'ont pas toujours besoin de nous. On change de vie, on veut être près d'eux, puis on s'aperçoit que non, quoi. Et donc, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, parce qu'on est des fois dans des chagrins énormes par rapport à nos enfants, par rapport aux petits-enfants. Et puis, je me suis dit, mais tu vois, Anne-Marie, tout ce que tu as vécu, ben voilà. Il n'y a pas que toi, et puis ça fait partie de la vie et de la famille. Et donc, c'est vrai qu'à partir de là, ben, Christ est là, et on se ressent et on se dit, ben voilà, restons dans la prière, prions pour nos enfants, nos beaux-enfants avec qui ce n'est pas toujours évident. Et c'est ça,
Oui.
la famille. Et tout ce qu'on
Ouais,
aura
exactement.
donné, nos chagrins, nos pleurs, ce que j'ai vécu depuis pas mal de temps, parce que des fois,
Oui.
les enfants sont des fois, waouh, c'est des fois très, très dur avec nous. On rentre dans
Oui,
le
oui, oui,
chagrin, on
oui.
se dit, mais mon
Oui,
Dieu,
oui.
mais pourtant,
Oui.
on a donné l'éducation,
Oui.
mais c'est ça la famille. Et ça, je
Oui,
vous
c'est vrai.
remercie parce
Oui.
que
C'est
ça
ça.
m'a transpercé le cœur. Je me suis arrêtée avec ma voiture, je me suis dit, là, je ne peux pas lâcher.
Ah
C'est
bon?
comme si que tout était
Oui.
dit, quoi. Tout
Oui.
était dit
Oui.
en 20 minutes, tout était dit sur l'amour et la famille.
Voilà.
Et je vous remercie, je vous remercie
C'est
beaucoup.
ça. Tout à fait. Ben, merci pour votre beau témoignage, Anne-Marie. C'est
Merci.
vrai que moi, je résume ce que vous dites. Ce que vous avez semé est certainement peut-être encore un peu mort, apparemment, mais le grain doit mourir pour porter du fruit. Donc, si vous êtes dans cette valeur-là, que vous avez semé, vous avez donné, et maintenant le reste ne vous appartient pas. Le Seigneur peut se servir justement de ce que vous avez semé, mais dans le temps qui est le temps de Dieu, qui n'est pas
Oui.
notre temps à nous. Voilà. Eh
Merci
bien, merci
beaucoup.
beaucoup,
Merci.
Anne-Marie.
Vous m'avez mis de la joie dans le cœur. Merci.
Oui.
Merci Anne-Marie. Au revoir.
Voilà.
Merci à vous, Père Michel Martin Prével. Et puis on vous
Oui.
retrouvera pour une prochaine émission le mois prochain sur un autre thème sur la famille.
Voilà. Au revoir à tous et
Merci beaucoup. Au revoir.
au revoir.